Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués aujourd'hui? Qui ont peut-être le blues des derniers jours? Le Festival d'été de Québec qui a signé son dernier spectacle hier pour l'édition 2026. On aura l'occasion de s'en jaser en masse. Je m'appelle Audrey Pinchot, bienvenue dans le retour de Boulevard 102.1. Nous reste officiellement 4 jours ensemble avant le retour de la programmation régulière, je veux dire, pour Gravel en retour le 3 août, programmation régulière complète qui revient le 10 août prochain. La semaine prochaine, vous serez avec Antonin Iacarini, Maxime Larouche qui sont autour de la table aujourd'hui et Mathias Turcotte. D'ici là, ben, nous reste une semaine pour se jaser quand même. Présentement, si vous êtes à l'extérieur, on est à 23 degrés ressentis, 24. On dirait que c'est une semaine qui fait un peu plus de sens que celle de la semaine passée. 25 maximum aujourd'hui avec 30 % de possibilité d'averse. Ce soir et cette nuit, c'est ennuagé, 15 degrés. Pour ce qui est de demain, on est à 26 des possibilités d'averse aussi. En soirée également, 17 de la pluie. Mercredi, ce sera 24 avec des averses pour la journée. Le soleil qui pourrait être de retour jeudi, selon les prévisions. Ce qui fait en sorte qu'un peu plus tard dans le show, on va se jaser de ce qu'on peut regarder sur les plateformes de streaming, parce que quand il y a de la pluie, c'est là qu'on en profite normalement. Je sais qu'Antonine et moi, on a regardé quelque chose en commun qui est complètement effrayant. On aura la chance de s'en parler un peu plus tard.
On va partager nos angoisses.
Oui, les angoisses de croisière, si vous avez vu ce documentaire-là. Shipwrecked, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est sur Netflix en ce moment. Je sais que Max et Anto ont regardé autre chose. J'ai commencé une série complètement plate, mes cerveaux, sa tablette. Mais chaque fois que je pèse sur play sur ce genre de série-là, c'est des genres de télé-réalité, là, je me demande toujours pourquoi je le fais. Là. Je perds foi en l'humanité un peu plus à chaque fois. T'sais. Fait qu'on aura l'occasion de s'en parler. Il y a Louis Bellavance qui va venir faire son tour. Fin de Festival d'été de Québec. C'est toujours égal, évidemment, avec un petit wrap-up de comment ça a été cette édition. Puis je trouve ça le fun. Je vais saluer les commerçants de la Grande Allée. Parce que quand la programmation est sortie cette année, on dirait que tout le monde était comme « Ah, il n'y a pas de moment fort ». Il me semble que la programmation est comme un peu éclatée, ça va partout. Puis on dirait que les gens n'étaient pas satisfaits en soi de l'annonce de la programmation. Moi, je trouvais ça hot qu'on ait vraiment de tout genre puis qu'on pitche un peu partout dans la nostalgie, entre autres. Mais j'ai jasé avec un ami qui travaille, qui est propriétaire, en fait, de la taverne, puis il me disait que cette année, c'est une augmentation de chiffre d'affaires de 36 % comparé juste à l'année passée, mettons. Puis il dit, ce qui était le fun cette année, c'est que c'est une édition qui a été égale, stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de méga point fort et de méga point faible, ce qui fait que toutes les soirées se ressemblaient. L'argent rentrait, les gens étaient présents, le monde avait du fun. C'était le fun pour le staff aussi, parce qu'imagine comment c'est de la chenoute à gérer là, quand dépendant des soirées, faut que tu lusses du monde, faut que tu fasses rentrer du monde dernière minute. Fait que ça a été une des éditions justement les plus tripantes d'une certaine façon pour les commerçants de la Grande Allée. Puis Dieu sait que la Grande Allée a besoin de cet amour-là du Festival d'été de Québec. Puis ça a été des derniers jours assez le fun aussi. Là, on s'est pas jasé depuis jeudi, mais mon Dieu, depuis jeudi, Gwen Stéphanie, il y a eu Muse, il y a eu Garrick samedi, Jelly Roll hier. Ça a été des super bons shows. Puis c'est cocasse parce que tantôt avec Max, ben on s'ostinait puis on essayait de trouver le top 5, mettons, là, des meilleurs shows là, cet été, cette année au Festival d'été de Québec, selon votre expérience. 88-971-1021, avez-vous vécu le fait qu'avez-vous sélectionné vos journées? Chez Antonine, t'es allé voir deux, trois shows.
Deux.
T'as sélectionné tes soirées, t'es allé voir Muse,
si je me trompe pas. Muse et
Limp Bizkit. Bon, t'en as choisi deux bonnes, on va se le dire.
Moi, j'avais déjà décidé ce qui était les meilleurs shows du fait.
D'avance.
C'est ça, mais c'était tout ce que j'avais envie de voir.
Max et moi, on a pas mal vu le fait qu'au complet, j'ai manqué une soirée, celle de Patrick Watson. J'ai pas tant de regrets selon ce que j'ai lu et vu, quoi
si,
que...
Si tu lis le journal de Québec, ça, là, t'as manqué.
Cédric Bélanger, c'était la soirée. Mais je pense qu'il y a tellement d'affaires de goût là-dedans. Puis, tu sais, je vous ai parlé de ma grille la semaine passée. Là, on dirait que j'évalue ça selon plusieurs choses en essayant d'être neutre. Mais c'est difficile parce qu'à un moment donné, c'est sûr que si tu connais toutes les tunes, tu passes un beau moment, tu tripes.
Mais c'est que tous les styles sont tellement différents aussi. Martin Garrix, samedi, c'était incroyable pour moi, mais tu peux pas comparer ça avec rien d'autre parce que t'sais, Martin Garrix, c'est un DJ, c'est sûr qu'il y aura pas d'instruments puis de choristes puis de fait c'est dur de le classer quelque part.
Le gars trippait d'être là.
Vraiment, il a fait à peu près 12 stories après, il a vraiment l'air d'avoir eu pogné de quoi là, à Québec, c'était vraiment le fun à voir. Mais tu sais, c'est ça, tous les styles sont tellement différents. Keisha, ben moi mes attentes c'était qu'elle soit là sans choriste, puis sans instrument, puis tout. Fait qu'à partir du moment où ça a été ça, moi, j'ai aimé le show parce que c'était ça mes attentes. Mais quelqu'un peut avoir pas aimé ça pour bien des raisons, puis on a déjà débattu.
C'est sûr que si t'avais amené tes enfants, peut-être que ça n'a pas été ta soirée préférée.
À la base aussi, il y a ça. Mais c'est ça. Puis, mettons qu'on est arrivé tantôt à faire à peu près un top 5, je suis pas capable de dire mon top 1. Je suis pas capable de dire entre Limp Bizkit, Garrix, Jelly Roll hier. Qui m'a... C'est la troisième fois que je voyais Jelly Roll en show. Les deux premières fois, j'avais aimé ça. Hier, je sais pas ce qu'il y a eu de différent. Peut-être la connexion avec la foule. Pis... Ben, mais ça m'a jeté à terre.
J'ai l'impression que Jelly Roll est premièrement, c'est un attachant personnage. Là, je veux dire, ce gars-là est reconnaissant d'être en vie. Là, c'est fascinant à voir. Là. C'est un gars qui a jamais oublié l'enfant qu'il a été. C'était une communion de la musique hier. Puis c'est drôle parce que Jelly Roll... Ça peut être débattable dans mesure où il a fait énormément de covers.
Mais comme beaucoup,
mais comme
là.
Pratiquement plus que ses tunes originales. Là. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de reprises. En même temps, comme je dis, c'était une communion de la musique. Tout le monde tripait, tout le monde connaissait les chansons, tout le monde chantait. J'ai l'impression que ça a fait en sorte que tout le monde a vraiment capoté sur sa soirée, tu sais. Puis on a quand même eu les grands classiques et hits de Jelly Roll, faut le dire. Là. D'ailleurs, dans les prochaines minutes, on va jaser avec Nicolas. Nicolas, si vous n'avez pas encore entendu parler de lui depuis hier sur les différents réseaux sociaux, c'est le gars de Québec qui avait une pancarte qui disait en gros « Ça me sauverait, Save Me », le nom de la chanson, de jouer cette tune-là à la guitare pour toi. T'sais. Puis tu te demandes toujours dans ce temps-là, c'est-tu stagé? Le gars, il a été placé là avec sa pancarte en avant parce qu'il y avait une chance que ça se produise. Il pratique depuis combien de temps pour ça? Tu as des gens, je me souviens, Green Day, il y a une couple d'années, Alicia qui était montée sur le stage, je veux dire, elle attendait ça, elle, depuis tellement longtemps.
Bien, le fait que cette année a commencé avec Dylan, qui est allé rocker avec Fred Durst sa scène.
Absolument.
Fait que, on a comme une vedette locale le jour 1 du fait qu'avec Dylan, Pierre, ça a littéralement terminé parce que c'était la dernière toune du show du fait avec le gars qui va la jouer. Puis qui,
ça a terminé comme ça a commencé.
La jouer, c'est une chose, mais à un moment donné, tu voyais Jelly Roll faire des signes. T'sais, OK, ben une loupe, on la refait. On refait ce bout-là.
On refait le refrain.
OK, on la refait une autre fois. Puis, fait que tu sais, t'as de l'affaire comme... Tu te pratiques, mettons, du début à la fin, c'est une chose.
Mais t'as jamais en live
mais là,
avec
tu,
l'artiste.
Oui, tu jamais avec Jelly Roll devant. Je sais pas, il y avait combien de monde hier, mais il y avait du monde beaucoup.
Puis je veux rien enlever. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui vont faire ça. Nickelback le fait avec Rockstar à chacun de ses shows. Il y a des gens qui ont une place pour ça dans le spectacle. Tu sais, ça fait une connexion avec la foule.
Là, c'était pas ça hier.
Non, on sentait pas ça. Puis on va lui demander à Nicolas de toute manière, mais on sentait pas ça. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai l'impression qu'à un certain stade, Jelly Roll avait l'air de quasiment plus trippé que Nicolas.
Ah ouais.
Puis ce partage-là de passion de voir ce petit gars-là de Québec jouer sa toune devant autant de monde. Là, on n'a plus les chiffres là, depuis des plaintes il y a plusieurs années, mais je veux dire, les plaines étaient pleines. Hier, ça allait bien là, pour un dimanche soir de dernière de fête. Là. C'était extraordinaire. Ça donnait des frissons. Je m'en allais. Moi, je me souviens, j'ai voulu partir 10 minutes d'avance. Puis on commence à marcher, puis là, je le vois descendre. Puis là, commencer à signer des affaires, puis spotter la pancarte. Puis là, tu comprends-tu que finalement, on est resté jusqu'à la fin parce que tu peux pas manquer ce moment-là. Puis des fois, les artistes vont faire ça en plein milieu du show, tu sais, pour avoir le dernier spotlight, pour avoir... Mais qui donne le dernier spotlight à un artiste, je vais dire, de Québec, un gars de Québec qui joue de la guitare, qui trippe sur lui. J'ai tellement trouvé ça beau. Max est en train de l'appeler. On va avoir la chance de se connecter avec lui dans les prochains instants. Tu vois, il y a quelqu'un qui nous dit « Mon top 5 fake 2026, Muse, Limp Bizkit, Michael Bublé, Jelly Roll et Gwen Stefani. »
Ouais, ça revient
beaucoup,
ça.
Je suis un peu à la même place, pour être honnête. Je suis un peu à la même place parce que moi, tu vois, j'avais sélectionné Gwen, Muse, pas dans l'ordre, là, je vous nomme Soulja, moi, que j'aurais mis là-dedans parce qu'il y a une fierté d'avoir ce gars-là de chez nous qui a créé une carte blanche aussi solide. Michael Bublé, je vous expliquais pourquoi. Moi, juste techniquement, avec ma feuille de correction, là, tout était là, là, visuellement, les vocalistes, l'orchestre symphonique, tout était là. Limp Bizkit, on se demandait tantôt, moi puis Max, c'est-tu l'effet de la première soirée? T'sais, on a trippé, c'était malade comme show. Mais à retardement, c'est-tu l'effet de la première soirée puis de nostalgie qui est rentrée au poste?
Ouais,
bonne question.
Moi, je pense que c'est pas juste ça. Parce que, en fait, moi, il y a comme un critère que j'ai découvert cette année. Puis c'est sûr, je vois moins de shows que vous autres, puis je l'ai choisi un peu plus sur le volet. Mais moi, on dirait que j'ai le besoin que l'artiste trippe à être là.
Oui.
OK? Oui. Mettons, j'ai juste deux shows à comparer, Limp Bizkit puis Muse. Muse, c'est extraordinaire, c'était vraiment bon, c'était un show d'aréna, c'est
mais c'est magnifique. Ça, moins de connexion avec la foule.
Exact.
Ben, alors que j'avais l'impression... Il y a dit Montréal.
Ben, c'est ça. Ça, c'est terrible.
Ouais. Ça, c'est...
Légèrement insultant. Mais c'est comme hier, Jelly Roll, on a ri parce que Canada. Puis là, on était plusieurs à se dire, voyons, t'es à Québec.
J'ai un petit malaise.
Un peu plus spécifique,
ben,
s'il te
ça.
Plaît.
Il se l'est fait dire, clairement. Ben, oui. Parce que Mané, tu voyais des fois qu'il allait jaser dans un micro puis qu'on lui parlait dans l'oreille aussi. Puis un moment donné, il s'est mis à plugger Québec City. Je veux dire,
La première fois qu'il a dit Québec, je pense qu'il l'a dit 7 fois dans sa phrase, juste pour qu'on soit sûr qu'il a compris que... oui, finalement, c'est pas Canada, c'est Québec.
Puis je pense qu'il s'est rendu compte de l'effet que ça avait parce que quand il a dit Québec, mon Dieu, les plaines se sont enflammées. Bon, on va aller rejoindre le gars qui a eu la chance de monter sur le stage hier, Nicolas Larose. On a réussi à lui parler hier soir, à être capable de trouver un trou pour se jaser. D'après moi, il est sollicité pas mal aujourd'hui. Nicolas, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça va bien. Est-ce que tu t'es remis de tes émotions?
Pas encore?
Là, tu dois avoir jasé une couple de personnes aujourd'hui. Ça, c'est des affaires qu'on aime. Hein? Les médias, nous autres, ces belles histoires-là humaines. Là.
Oh ouais, c'est... J'ai pensé à nouveau, je pense à TVA,
c'est normal, je pense, parce qu'on a une fierté quand il y a des gens de chez nous qui réussissent à nous faire triper. T'as eu un spot que peu de gens ont, Nicolas, t'as carrément fermé le show, te rends-tu compte?
Ouais, c'est mon frère m'a fait réaliser ça après, il a dit, genre, en anglais, il a dit « You were the last person on the stage on the last night of the FEC ».
C'est fou, là!
T'étais la dernière personne sur la scène la dernière soirée du FEC.
As-tu un moment, puis là, évidemment, c'est sûr que ton moment préféré, j'imagine, c'est celui-là, mais pendant le bout où tu étais sur le stage, as-tu un moment qui t'a fait triper? Parce que t'as fait la toune au complet, tu l'as commencé, il t'a arrêté, vous l'avez recommencé, il t'a demandé de louper le refrain, je veux dire, vous avez vécu un bout ensemble sur le stage, là. Y a-tu un moment où t'as réalisé ce que tu vivais ou ça a été par après? Comment tu t'es senti? Fais-nous vivre un peu ton trip.
Ben, quand je suis rentré dans le fond, ils m'ont mis les écouteurs.
Oui.
J'ai entendu l'autre guitariste qui m'a parlé, il a dit « Inquiète-toi pas, moi je vais être là avec toi pour le début, fait que si tu manques quelque chose, je vais être là. » Et ça m'a vraiment rassuré, mais moi c'est quand le premier refrain est parti, que les étincelles sont parties du toit, et que tout le monde avait leur flashlight, ça c'était magnifique.
Oh, wow.
À quel moment t'as compris que... Parce que là, t'avais ta pancarte, ceux qui étaient là l'ont vu, ceux qui étaient pas là l'ont vu aussi, probablement, ces réseaux sociaux. Ta pancarte qui dit « Hey, ça save me de... » Puis il y avait le jeu de mots, entre guillemets, avec le titre de la toune.
Mais ouais.
À quel moment t'as compris que Jelly Roll t'avait vu puis que c'était peut-être une possibilité qu'il t'embarque sur la scène avec lui?
Ben, la première chanson qu'il a joué, vraiment, il m'a regardé, il m'a pointé puis il a fait un thumbs up.
Dès le début du show.
Dès la première chanson, pendant que je chantais Hands Up.
Arrête.
Ouais.
Fait que c'était pas stagé pendant tout?
Non, aucunement stagé.
OK. Mais là, comme.
OK, ben dans le fond, il est revenu vis-à-vis moi dans une autre chanson, je ne savais pas trop c'était quoi, puis il m'a fait comme un air guitar avec un thumbs up. Fait que ça, à ce point-là, je savais que je montais là.
Puis comment on vit le reste du show? Parce qu'à partir du moment où à première toune, t'es stressé que tu vas monter sur le stage, tu sais pas quand. Ben, écoute, je te trouve bon, moi j'aurais perdu connaissance, là, je veux dire.
Ben, rendu sur le stage, c'était pas loin, là.
Mais c'est sûr. Fait que t'as été capable de profiter du spectacle malgré le fait que tu savais dès le début que t'allais monter.
Ouais, oh, ouais, parce que Jelly Roll, pour vrai, c'est un de mes artistes préférés. Je l'écoute... Depuis qu'il a fait le petit switch de ce qui était rappeur avant plus, oui. Là, il a fait plus un jump au country, puis là, je l'écoutais bien plus. Depuis ce temps-là, c'est un de mes coups de cœur.
Parle-nous de l'importance de cette chanson-là précisément pour toi.
Oui, parce que ta pancarte était quand même assez criante.
Dans le fond, moi, j'ai gradué le primaire pendant le COVID, fait que je m'en allais au secondaire. Fait que nous, je suis rentré au secondaire, on était en virtuel. Fait que j'étais tout seul chez nous. Mon frère avait déménagé, ma soeur était rarement chez nous. Et moi, j'étais pas mal tout seul, puis j'avais juste de la musique avec moi. Puis là, j'ai découvert cette chanson-là. C'est comme « Somebody save me, me from myself ». Et c'est ce que je me ressentais parce que j'étais toujours tout seul. Il faudrait que quelqu'un me sauve de moi-même, je sais pas si tu comprenais.
Mais oui.
Et c'est sûr que j'ai fait ça aussi, il y avait un jeu de mots qui était facile, fait que ça l'a...
Ben, ça a définitivement attiré l'attention, c'est sûr.
Ouais.
Fait que sa musique t'a comme aidé un peu à passer à travers les dernières années.
Ouais, ouais.
As-tu, mettons que tu me fais ta critique, bon là, t'as un billet, t'adores l'artiste, mais ta critique personnelle, on en jasait avant de te rejoindre, puis il y a des gens qui ont moins aimé le fait que Jelly Roll ait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de covers pendant son spectacle. Puis il y en a qui ont vraiment aimé ça parce que, ben, il avait compris sa mission de fermeture du Festival d'été de Québec. Où tu te situes par rapport à ça, étant un fan du gars?
Ben, moi, je trouve qu'il a chanté ses chansons les plus populaires. Fait que tout le monde connaissait, il a joué. Il a joué des chansons qui pouvaient aider l'ambiance aussi avec du Avicii. Tout le monde connaît ça.
Oui.
Black Eyed Peas, tout le monde connaît ça. Fait que ça a juste monté l'ambiance, trop.
Écoute, je peux pas être plus d'accord avec toi, Nicolas. Là, à partir de maintenant, je veux dire, ce petit bagage-là, j'imagine que tu vas le traîner très, très longtemps. On était très fiers de voir un gars de Québec monter sur le stage. C'est drôle parce que vous avez tous le même réflexe, hein? Vive Québec! Puis de profiter à fond du moment présent. J'espère que tu en as profité solidement. Pour vrai, je te le souhaite.
Oui.
Est-ce que, parce que là, j'ai vu que Jelly Roll t'avait suivi sur Instagram,
ouais,
je pense.
Ouais, ouais.
Est-ce qu'il t'a écrit ou...
Mais, dans le fond, j'étais avec son caméraman. Après le show, il m'a amené dans le backstage, j'ai rencontré toute son équipe.
Mais...
Il a dit, Jelly Roll, il va t'ajouter, puis il va te texter à soir, ça se peut qu'il va vouloir faire de quoi avec toi. Fait que c'est ça. Il m'a pas retexté, il m'a texté, il a dit, you're a effing legend.
Oh, ben là, c'est bien hot. Fait qu'ils ont vraiment pris soin de toi jusqu'à la fin, là. C'était pas retourne dans la foule, là.
Non, non, le monde, ils m'ont parlé. Ils m'ont tout félicité. Ils étaient tous super fiers. C'était vraiment cool.
Je trouve que parmi tous les moments, parce que, tu sais, t'étais pas le seul qui a fait ça avec des artistes, mais mettons, on l'a vu avec Limp Bizkit, entre autres, en début de fake. Je trouve que t'as vécu quelque chose de vraiment spécial parce que normalement, c'est ça, l'artiste est un peu... retourne la personne invitée dans la foule, continue son spectacle, mais toi, vraiment, t'as vécu quelque chose de quand même intime avec lui, là.
Ouais, c'est ça. Surtout que j'ai... ça a été une constance que sa tune, c'était la dernière chanson qu'elle allait jouer. Puis moi, dans ma tête, c'était elle que je voulais jouer avec lui. Il n'y en avait pas d'autres.
Mais c'est... Ben, tu sais, au début du fait qu'il y a Dylan qui avait mis le feu à la foule, puis avec une toune où c'est une habitude pour Limp Bizkit de faire monter quelqu'un de la foule, puis ça enlève rien à ce que Dylan a donné comme spectacle. Elle a été incroyable. Mais là, de ce que je comprends, tu sais, d'habitude, Jelly Roll fait pas monter quelqu'un jouer de la guitare pendant Save Me, là.
Ouais, c'est ça. Je sais pas. Je pense que je suis un des premiers, sinon le premier. C'est la première fois que je vois. J'ai essayé de faire mes recherches, j'ai pas trouvé... les résultats.
Non, parce qu'on l'avait vu au Centre Vidéotron quand il est venu, puis il l'avait pas fait. Là, moi, j'étais là au show, puis j'ai comme l'impression que c'est un gars qui a juste une grande passion de la musique, puis qui avait envie de la partager avec quelqu'un, tu sais. C'est fou, Nicolas, là, je veux dire, il avait l'air d'autant triper que toi sur le stage, là.
Moi, j'ai changé ma photo de profil. J'avais pas remarqué ça. Il tenait la pancarte, puis il a tellement un gros sourire d'en face.
Hein. Oh, il a les yeux brillants, là.
Oh, oui.
Tu vois que le gars a vécu des affaires tellement nulles, tragiques même, à un certain point dans sa vie, puis que cet amour-là, c'est ça. Il la partage encore aujourd'hui, puis t'as pu bénéficier de ça. Fait que, écoute, on est très content d'avoir pu te jaser. T'as rocké ça hier, on était bien fiers. Je vais dire, comme j'ai dit à ma contrainte en nombre, Nicolas, moi, j'étais censé partir. Puis pendant que je marchais, j'ai vu qu'il s'en allait vers toi, puis je me suis dit, ah, impossible que je manque ça. Fait que finalement, je suis restée un peu plus tard pour être sûre de ne pas manquer ce moment-là, puis j'étais bien contente.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir pris le temps, puis écoute, surfe là-dessus encore pour les prochaines semaines, mon ami.
Parfait, merci beaucoup.
Salut.
Hey, ça doit être capoté, je sais pas si tu t'en remets.
Puis tellement une belle histoire, puis je me souviens avec Dylan, même affaire, tu sais, tu voyais que c'était une vraie tripeuse, puis là, avec Nicolas hier, de finir le fake, tu peux pas te remettre de ça, là.
Puis, mais faut quand même un certain talent. Moi, je sais pas si vous seriez game, là, mais moi, même si je suis bonne
mais
en
attends,
musique...
Mais chanter, c'est une affaire hier, c'est parce qu'on voyait Nicolas avec sa guitare, hey, ses doigts shakaient, là,
ben oui.
Puis il réussissait quand même à faire la toune avec ses doigts qui shake.
Mais ta voix peut shaker aussi.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est plus tough à guitare parce que, veux pas, si tu shakes, tes doigts, c'est ton outil de travail.
Oui.
Moi, j'ai été
ben,
plus...
Pour faire de la musique
ben,
et chanter, je vais t'avouer
moi,
que quand la gorge te noue, puis qu'il n'y a plus grand-chose, puis tu as de la
c'est
misère
ton
à respirer.
Aussi,
là.
Mais moi, en tant que chanteur, c'est parce que je connais ça.
Oui,
pis...
c'est ça.
moi je serais capable de monter sur, je serais capable de monter sur scène avec mon artiste préféré puis chanter là.
Mais
je pourrais pas, c'est sûr que je joue pas de guitare dans la vie non plus.
C'est sûr que
je pense que peut-être avec un ou deux verres, mais moi mettons devant 90 000 personnes là, je serais pas capable de gérer tous ces gens là qui ont l'attention sur toi, tu sais.
Je pense pas que tu le vives pour savoir.
Probablement.
En ce moment, pour vrai, je suis confiant que moi j'embarquerais puis que je rockerais ça.
Mais tu sais, j'ai aucune inquiétude.
Ça, c'est la confiance infinie de l'homme blanc.
Ah, ça doit être ça.
Tu penses que tu peux faire atterrir un avion s'il y a une situation d'urgence?
Absolument pas. Mais je suis capable de me faire embarquer sur scène puis chanter Mr. Brightside, par exemple, avec des Killers. 100%.
Ben moi, je suis capable. Écoute, oui.
moi, j'aime
tellement les gars.
Honnêtement, moi aussi, j'aime ça. Je te salue.
Ouais, on aimerait ça.
Écoute, j'aurais fondu. Ça aurait été terminé. Là. Fait que j'admire vraiment les gens qui osent, qui trippent. Puis pour vrai, c'est devenu un de mes moments préférés du festival hier parce que Jelly Roll nous le fait vivre à nous aussi. C'est pas juste Nicolas qui a vécu un trip.
Le sourire à Jelly Roll. Puis si vous allez voir sa page Facebook de Boulevard, là, j'ai mis une petite vidéo où la vidéo commence exactement à ce moment-là où Jelly Roll a la pancarte de Nicolas à côté de Nicolas qui joue de la guitare. Puis le sourire, tu sais, ça se fake pas. Là. Tu vois que le gars capote vraiment sa vie. Là. Puis, tu sais, tu vois à côté Nicolas qui, lui, est bien dans sa bulle parce qu'il veut se concentrer pour faire
pas rater,
ça.
Là.
Hey, puis t'as le sourire à Jelly Roll à côté qui vaut de l'or.
Ah, il est dur à pas aimer. Pour vrai, cet artiste-là, là, il s'est vraiment frayé un chemin. Tu sais, Jelly Roll, c'est pas quelqu'un que j'écoute au quotidien. C'est quelqu'un qui a fait tellement de collaborations qu'on l'a entendu beaucoup à Boulevard quand on était musical. Puis on dirait que après l'avoir vu au Centre Vidéotron, j'étais curieuse de voir en festival. Puis j'y retournerai demain matin. J'ai vraiment vécu un solide moment. On pourra parler pendant des heures, mais il est déjà 14h22, fait qu'on va passer à autre chose. Mais votre top 5 du Festival Été de Québec, curieuse de l'avoir, on a quelqu'un tantôt qui nous a donné le sien. Muse, Limp Bizkit, Michael Bublé, Jelly Roll et Gwen Stefani, on voit que ça tire un peu partout, mais ça a été ça le fait que cette année, puis ça a été super trippant de cette façon-là. Peut-être vous amener un peu dans la circulation, là, quelques problèmes sur Henri IV Sud à la hauteur de Charest, ça commence, sinon la 20 Ouest, hauteur Taniata. Pour le reste, ça roule super bien jusqu'à maintenant, on voit qu'entre autres, le fait qui est terminé. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 971-1021, texto. On revient, vous êtes dans le retour de Boulevard. Je m'appelle Audrey Pinchot. Vous avez entendu Max Larouche, Antonin Iacarini. Le retour. Effectivement, on est 100% parlé tout l'été, ce qui fait qu'on change pas trop vos habitudes. On joue à chaise musicale, par exemple. On s'amuse à travailler avec d'autres mondes, ça bouge un peu. Mais vous êtes 100% parlé en semaine. Et les soirs et fins de semaine, on reste musical. On garde quand même l'ADN de Boulevard 101 à ce niveau-là. Vous rappelez qu'il y a quelques problèmes, quelques ralentissements plutôt sur les routes, entre autres, Henri IV Sud à la hauteur de Charest, la 20 direction ouest, quelques ralentissements hauteur Chemin des Îles, quelques problèmes hauteur Taniata aussi, reste des travaux dans ce coin-là quand même. Là. Si y a autre chose, vous vous gênez pas au 88-971-1021. Texto Max. Ce midi, on jasait, ça avait pas l'air d'être une grosse journée d'actualité. Ça a-tu bougé ou on est à la même place?
On est à peu près à la même place. T'sais, on parlait du Festival d'été de Québec en ouverture. On est beaucoup dans les bilans par rapport à tout ça, notamment la ville de Québec qui dresse un bilan positif des déplacements effectués pendant les 11 jours de Festival d'été de Québec. On dit que le vélo a continué d'occuper une place importante dans les habitudes de déplacement des festivaliers. On dit qu'il y a une petite baisse d'achalandage cyclable par rapport à 2025 parce qu'on se souvient qu'il n'y avait pas d'autobus l'année passée.
C'est vrai.
Fait que c'est sûr que le vélo devenait à ce moment-là très, très utilisé. Il y a eu une petite baisse donc cette année, mais on nous dit que les principaux corridors cyclables qui ont mené au site du FEC ont enregistré quand même près de 74 500 passages à vélo. La piste cyclable aménagée sur la Grande Allée qui a connu une hausse de fréquentation de son côté de 9% par rapport à 2025. La marche qui a aussi été un mode de déplacement privilégié durant le FEC, au-dessus de 20 000 passages piétons recensés sur le corridor Vivacité du chemin Sainte-Foy. Pour ce qui est de la circulation automobile, les équipes municipales qui ont effectué près de 1500 interventions de gestion de la circulation, notamment par l'ajustement des feux de circulation sur les principaux axes du secteur, et on nous dit qu'il n'y a aucun épisode de congestion exceptionnel qui a été observé
pour
et que les temps de déplacement sont demeurés comparables à ceux des années passées malgré les travaux. Là, ça a l'air qu'on est resté dans les mêmes normes qu'à l'habitude.
Bien, ça a vraiment bien été. T'sais, on aime ça chialer, là, mais je pense qu'il faut saluer quand ça se passe bien. Là. Les policiers ont fait une super belle job. Moi, j'ai pris mon char tout le fait. J'ai tenté l'autobus le soir 1. J'ai vu comment ça se passait, j'ai décidé de prendre un Uber. Mais le reste du festival était de Québec. Nous autres, on a comme décidé de mettre les sous ailleurs. Là. Je bois pas cette année. Là. Fait qu'on
fait
a comme.
Stationnement.
Exactement, on a décidé de mettre ça sur le stationnement.
Les navettes à l'aller, ça a été un échec pour moi. Là. Ça a été trop long.
Les deux fois?
Non, la seule. Après ça, je me suis organisée autrement. Je suis allée vendredi en autobus, mais je prenais pas les navettes. Je prenais bus trajet normal. Ça a super bien été au retour aussi. Donc, très efficace.
Mais il faut savoir qu'il y a priorité aussi à ces autobus-là. Là. Puis, finalement,
On a priorité jusqu'à ce que, là, j'ai vu les bus de Muse, à un moment donné, là, commencer à passer de bord.
Ouais.
On avait deuxième priorité, mettons.
Finalement, ça marchait plus tard. Mais pour vrai, ils ont vraiment fait une super belle job. Là. Moi, ce qui me fascine tout le temps, c'est... C'est drôle, hein? J'ai vécu quelque chose en fin de semaine, puis je savais pas à quel point j'allais en parler ou j'allais aller là. Mais tu sais, les policiers font une belle job, puis t'as des gens qui sont pas toujours corrects puis qui font chier ce monde-là. Là. Ça doit être plate comme job quand t'es policier de faire la circulation littéralement pendant 10 heures de temps dans une journée. Là. Mais tu sais, en fin de semaine, moi, je me suis fait ramasser par une policière à un moment donné. Tu sais, quand t'es pas habitué de rouler en ville nécessairement avec les travaux, que t'es pas... Tu sais, moi, je me dis toujours, les policiers, ce sont ceux qui peuvent répondre à nos questions. T'sais, ce sont ceux qui... C'est l'autorité, je veux dire, la plus haute que tu peux aller pour t'aider s'il y a de quoi. Là. Fait que, ça m'est arrivé un moment donné qu'ils ont changé un chemin puis je me suis ramassée à comme pas trop savoir comment me retrouver pour aller où j'allais d'habitude. Moi qui n'ai pas super bonne en ville en auto. Là. Puis je veux dire, tu vois qu'à la fin du festival, il y en avait leur cul. Là. Mais leur cul de faire la circulation puis de gérer du monde puis de
ouais, puis gère du monde en boisson puis on comprend que ça peut être fatigant.
Ah, puis des gens désagréables, c'est sûr.
Quand t'as une personne pas désagréable qui vient te poser une question, tu sais, des fois, leur exaspération est pas dirigée nécessairement vers la bonne personne.
Mais sais-tu ce que je me suis dit? Je me suis dit, c'est plate parce que, encore une fois, je salue le travail des policiers. Autant pendant le Festival d'été de Québec que dans tout ce qu'ils font, leur job est pas facile. Mais je trouve ça plate parce que je me suis dit, tu sais, mettons, là, Tigui dans son sous-sol qui haït toute la société puis de l'État, là, puis qui haït les policiers puis les autorités puis le gouvernement, puis c'est sûr que des situations de même, t'aides pas ta cause comme ben autorité, tu sais. C'est vraiment ce que je me suis dit. Mais encore une fois, salutations au bon travail qui a été fait parce que pour avoir utilisé mon véhicule, je peux pas chialer, j'ai pas attendu super longtemps pour sortir du site, puis ça a bien été pour rentrer aussi. Là. Max?
Pour rester dans les chiffres de bilan, là, je parlais de la ville, mais le RTC plus précisément a donné ses chiffres aussi. Au total, près de 277 500 déplacements qui ont été effectués à bord des navettes et des parcours du RTC sur les 11 soirs. Le service à vélo qui a enregistré près de 178 000 déplacements. La soirée la plus achalandée en termes de bus, c'est celle du 15 juillet, donc Keisha, plus de 20 600 déplacements. Le record en une journée de déplacements à vélo des 6 dernières saisons qui a aussi été battu le 15 juillet avec près de 20 000 déplacements. Rappelons que le RTC là, offrait pour l'événement un service de navette au départ de Lebourgneuf, Charlebourg, Sainte-Foy, Beauport. Il y avait stationnement incitatif gratuit puis il y avait aussi plus de fréquences pour les métrobus 800, 801, 805 et 807. Au total, c'est 100 autobus supplémentaires qui ont été rendus disponibles chaque soir durant les festivités. Le premier week-end des vacances de la construction qui laisse un lourd bilan de 8 morts sur les routes du Québec. Il y a un tragique accident notamment qui a fait 3 morts vendredi après-midi dans les Laurentides, un couple et un jeune enfant qui ont perdu la vie. À Québec, un motocycliste dans la 60aine est décédé après avoir perdu le contrôle de sa moto au courant du week-end. Il y a un autre accident qui n'a pas fait de mort, mais quand même 2 blessés graves à l'île d'Orléans hier. Et ce matin, un autre motocycliste qui a subi des blessures graves, cette fois dans le secteur de Saint-Henri-de-Lévis. Mohamed Bekali, qui avait fait la manchette en mars dernier en partageant une vidéo où il insultait violemment une policière, a été arrêté le 2 juillet dernier. Selon l'agence QMI, il a comparu sous 3 chefs d'accusation d'avoir publié un libelle diffamatoire à l'égard d'une policière et de 2 policiers du SPVM. Les accusations qui seraient liées à plusieurs publications de Bekali dans les semaines suivant la première controverse du mois de mars dernier. Et il se trouvait au volant de son véhicule alors que son permis de conduire était sanctionné pour des contraventions impayées lorsqu'il a été arrêté. Bekali qui s'expose à une peine maximale de 2 ans. En attendant, il a été libéré sous condition. Il ne peut plus publier de contenu par rapport à la police sur les réseaux sociaux. Il a aussi dû supprimer ses publications problématiques sur les mêmes réseaux sociaux. Le ministère de la Sécurité intérieure a annoncé la levée complète de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité dès midi aujourd'hui. La mesure qui était en vigueur depuis le 13 juillet. Décision qui a été prise en collaboration avec la SOPFEU. Actuellement au Québec, 10 incendies de forêt sont en activité en zone de protection intensive. 136 feux sont actifs en zone nordique. D'ailleurs, il y a des incendies dans le nord de la province, en Ontario et dans les territoires du nord-ouest qui risquent d'amener pas mal de fumée dans notre coin à partir de jeudi. Donald Trump dit avoir dit à Mark Carney en le croisant à la Coupe du Monde d'arrêter de polluer l'air des États-Unis avec nos feux. Il y a notamment Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui a pas mal poivré Donald Trump ce matin en rappelant...
Dieu sait qu'on a le contrôle là-dessus en plus. Hein?
Ben ça, puis il a aussi rappelé que quand les États-Unis sont dans la marde, ben nous, on leur envoie de l'aide. Alors que nous autres, quand on est dans le trouble, on se fait menacer de tarifs.
Aussi peut-être... un petit point sur le fait que c'est les changements climatiques aussi qui augmentent les feux de forêt. Donald Trump n'est pas particulièrement le champion en la matière non plus.
C'est vrai.
Petit point comme ça.
Il y a Donald Trump qui a aussi réagi dans les dernières heures sur son réseau Truth Social, répondait au maire de New York, Zoran Mamdani, qui envisage la possibilité d'arrêter le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Et Donald Trump a donc écrit « Benjamin Netanyahou ne sera pas arrêté sous aucune forme ni de quelque manière que ce soit tant qu'il se trouvera aux États-Unis. Il lutte contre la République islamique d'Iran qui a récemment tué 52 000 manifestants innocents et qui, au cours des 47 dernières années, a tué des soldats américains ainsi que d'autres personnes. Les seules personnes qui devraient être arrêtées sont celles qui ont entraîné l'Iran dans cette spirale sans précédent de mort et de destruction. Une situation qui aurait dû être traitée il y a des années par les présidents précédents. » Fait que là, je sais pas à quel point il sous-entend que c'est d'anciens présidents des États-Unis qui devraient être arrêtés pour pas avoir arrêté ce qui se passait en Iran. Moi, je le lis un petit peu comme ça. C'est peut-être pas ce qu'il voulait dire, mais ce serait pas nécessairement surprenant de M. Trump. A aussi écrit un petit peu plus tôt que chaque fois que l'Iran tuera un soldat américain, on va payer le prix fort pour cet acte. Cette directive a été transmise au secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, au chef d'état-major interarmé et à tous les responsables militaires. Et je termine avec ça. Dans le politique provincial fédéral, le gouvernement du Québec a annoncé ce matin la conclusion d'une entente de principe avec Ottawa pour optimiser les évaluations environnementales sur l'ensemble du territoire québécois par l'application du principe « un projet, une évaluation, une décision ». Par communiqué, le gouvernement Fréchette indique que l'entente vient préserver l'autonomie du Québec ainsi que sa capacité de développement économique et énergétique. On ajoute qu'elle élimine donc les chevauchements des évaluations environnementales qui met actuellement des obstacles à la viabilité et au financement de certains projets économiques porteurs, en plus d'assurer un régime juridique stable et prévisible. Fait qu'en gros, ce qu'on veut à l'avenir, c'est qu'un projet ait pu à passer par une approbation provinciale et une approbation fédérale, puis qu'on a juste une étape à passer.
Merci, Max. Il est 14h38, si vous êtes sur les routes en ce moment. On nous dit sur le 5-1 que Robert Bourassa-Nord, à la hauteur Perle-Lièvre, il y a des débris dans les voies, puis on a un peu de détails, là. Entre la bretelle d'accès de Perle-Lièvre et l'embrachement pour Capitale-Est, il y a une dizaine de paquets de je sais pas quoi qu'on nous dit un peu partout sur la chaussée. Soyez prudents dans le coin si vous y êtes. C'est peut-être ce qui aide pas, en fait, au ralentissement actuel. Autre chose, 88-971-1021 texto, suivez-vous encore le Tour de France? Petite controverse, on en parle dans quelques minutes.
Le retour.
On a Christian sur le texto 88-971-1021 qui nous dit quand même questionnable de réveiller un coureur à 2h du matin et qu'il se plante après. On va en jaser de ça. La controverse au Tour de France. Juste avant, Max, il y a des nouvelles du Canadien ce matin.
Oui, le CH qui a officialisé deux signatures, une dont on était déjà au courant, là, celle d'Hunter McNown. C'est deux signatures mineures de Ligue américaine, quoique dans le cas de Jared Davidson, pourrait se battre pour un poste à Montréal. Pour ce qui est de McNown, lui a été acquis dans les dernières semaines en retour de Luke Tuck, un autre espoir du Canadien. McNown jouait pour l'organisation des Jackets de Columbus l'année passée, jouait avec les Monsters de Cleveland dans la Ligue américaine de hockey, a marqué 9 buts, récolté 16 mentions d'aide en 63 matchs. Donc, est-ce que c'est un gars qui pourrait se battre pour un poste à Montréal? Je serais relativement surpris. À 23 ans, encore jeune, c'est un gars qui éventuellement pourrait peut-être faire son chemin jusqu'à la LNH, Hunter McCown. Mais pour l'instant, je pense que c'est plus une signature de contrat de Ligue américaine pour une saison. Dans le cas de Jared Davidson, là, c'est intéressant parce que c'est un gars qui a fait ses débuts dans la LNH la saison passée. passé la plus grande majorité de la saison avec le Rocket dans la Ligue américaine. On parle de 25 points en 53 matchs. C'est une baisse de régime parce qu'il avait très bien fait, lui, en 2024-25, Jared Davidson, avec 45 points en 69 matchs. Cela dit, l'année passée, 10 matchs dans la LNH, une seule mention d'aide, mais n'avait pas nécessairement mal fait. Jared Davidson, qui est rendu à 24 ans, fait que commence à se faire tard un petit peu s'il veut percer dans l'organisation du Canadien. Mais comme 13e attaquant, ce serait pas impossible nécessairement de le voir se tailler un poste cette saison, surtout avec le fait que le Canadien n'a pas vraiment bougé jusqu'à maintenant. Donc, c'est un gars qui va être dans le mix pour un poste, Jared Davidson. Donc, contrat d'une saison à deux volets pour lui et pour Hunter McCann. On a aussi officialisé du côté du CH la signature de Derek Lalonde comme entraîneur associé. C'est un peu un entraîneur adjoint, là. Derek Lalonde qui a été notamment par le passé entraîneur-chef, lui, du côté des Red Wings de Détroit. Ça s'était pas nécessairement très très bien passé pour lui. L'année passée, il était assistant entraîneur avec les Maple Leafs de Toronto. Là, de ce qu'on comprend, c'est un gars qui va vraiment travailler sur le désavantage numérique du Canadien, Derek Lalonde. Fait que comme entraîneur-chef, ça a pas très bien marché dans la LNH, mais comme assistant entraîneur d'expérience pour venir épauler Martin Saint-Louis, je pense que c'est pas mauvais du tout. Donc, c'est les trois nouvelles qui ont été annoncées par le Canadien ce matin. Sinon, en fin de semaine, on avait les deux finales de la Coupe du monde de la FIFA, la finale de loser pour la troisième position et la vraie finale.
J'ai entendu dire que la finale de loser avait été plus intéressante.
Ben, 6-4 pour un match de soccer, ça n'a aucune classe.
C'est drôle, parce qu'il y a quelques jours, on parlait de foot ensemble et on se disait à quel point ça n'arrive jamais.
À quel point c'était difficile de faire, mettons, des buts. Puis, je pense que c'est Denis qui nous avait dit que ces gars, ils avaient expliqué que, mettons, que t'étais 2-0 au soccer, c'est comme si c'était 8-0 les Canadiens, mettons, là.
Et là, 6-4, la victoire de l'Angleterre face à la France. Puis on a eu toute une remontée à un moment donné de la France qui perdait 4-0. On a remonté à 4-3. Puis finalement, on a quand même fini par échapper le match face à l'Angleterre.
Puis un des enjeux de ce match-là, c'était que le joueur vedette Kylian Mbappé batte le record. En fait, fasse le plus grand nombre de buts pendant la Coupe du Monde et batte un record. Donc, ça prenait quelques points. Puis, il les a accomplis.
Vous les avez regardés, les deux games?
Moi, j'ai cligné des yeux quelques fois pendant ce match-là, manquant des buts. Parce que, tu sais, tu partais comme 5 minutes, te cherchais quelque chose en cuisine, tu revenais, puis t'avais manqué 2 buts. C'était complètement
quoi, là,
fou.
Ouais.
Mais c'était un match quand même super intéressant à regarder. Puis, pour vrai, à un moment donné, je me disais, la France va peut-être gagner. T'sais, d'habitude, quand l'autre équipe a 2 ou 3 points d'avance, tu comprends que
c'est perdu.
Fini.
Mmh. Ben là, c'était 4, puis on a ramené ça à 1.
Ouais, exact. Donc, ça, c'était intéressant. La finale...
C'était un match de soccer.
C'était plus classique.
Le gardien argentin qui aurait pu voler cette finale-là si l'Argentine avait fini par scorer un but. Ce qui est dur à faire quand t'as pas un tir cadré dans le match,
parce que
c'est ça qui est arrivé. Au niveau des tirs cadrés, ça a fini 11-0 Espagne. Les tirs 20-3. T'sais, l'Argentine n'a jamais été dans le coup.
Le gardien espagnol aurait pu lire un petit roman là, dans son but à côté sur le poteau.
Aïe, aïe.
Mais ça a quand même fini avec un but à la 93e minute d'Enzo Fernandez pour donner la victoire. Non, c'est Ferran Torres, c'est ça, qui a marqué pour donner la victoire à l'Espagne. Le nom, je me suis trompé, c'était à cause du carton rouge qui a été décerné à Enzo Fernandez.
Mais d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a marqué le plus de ce match-là. C'est qu'il n'y avait pas énormément de tirs au but et de buts non plus. Mais je trouvais que les Argentins... Bon, moi, chez nous... d'habitude, je compte pour l'Italie. Là, l'Italie n'était pas là. Donc, évidemment, souvent, je me rabats sur l'Argentine. Puis je sais qu'il y a souvent beaucoup de haine envers l'Argentine. Là, moi, dans mes amis, c'est
pourquoi?
Comme...
Hein? Parce que l'Argentine était vraiment hot à un moment donné.
Oui, Lionel Messi, c'est un des joueurs les plus populaires au monde. Mais tu vois, hier, ils étaient dans leur mauvais côté. Ils jouaient comme des thugs. Ils pognaient des pénalités, des cartons, et ça a fait en sorte, à un moment donné, qu'ils se sont retrouvés en désavantage numérique. Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, c'est un peu de ta faute si tu te fais scorer début. Il n'y avait pas nécessairement une super bonne attitude non plus sportive, on va dire ça comme ça. Les Argentins ont tendance aussi, puis ça, c'est quelque chose que les gens qui aiment moins le soccer ont tendance à trouver désagréable, c'est qu'il y a pas mal de théâtre.
Mm. Oui, bien là, okay, le soccer en général est un peu reconnu
oui,
pour ça.
Oui, mais les Italiens et les Argentins, tout particulièrement, ont tendance à en rajouter. Puis ce qui est drôle, c'est que quand les espèces de secouristes arrivent avec... la petite civière, là, t'as couru un peu mal. Là. C'est pas à courir.
Ouais,
c'est une civière magique.
Ah, Seigneur, moi, ça m'énerve, ça.
Mais c'est drôle parce que tu demandais pourquoi on haït l'Argentine, mais c'est comme dans tout. T'sais, mettons, au football, ben, t'avais ceux qui tripaient sur Tom Brady et ses
exact.
Patriots, mais de l'autre bord, ben, ça fait que il y a plus de monde qui va détester Tom Brady et les Patriots, comme maintenant, il y en a plein qui détestent les Chiefs avec Pat Mahomes.
Ouais.
Comme quand t'as des...
Il y a des gens qui n'aiment pas les favoris
ouais.
et les bandwagons, c'est-à-dire l'équipe que quand ils se mettent à gagner, un paquet de monde qui compte pour eux parce qu'ils gagnent, dans le fond.
Ouais, ouais,
ben, l'Argentine
ouais.
a peut-être vécu un peu ça. Ce qui est spécial aussi avec la finale d'hier, c'est que ben, Lionel Messi, là, il a 40 ans, 39, 40 ans, et il avait déjà annoncé une première fois une retraite. Je pense que l'équipe d'Argentine ne sera plus la même pour un bon bout de temps.
Ouais.
Là,
sans
Lionel
lui,
Messi
c'est
fait
sûr.
Pas partie de l'équipe nationale.
Ça, c'est sûr. Des nouvelles du Tour de France, en fait.
Oui.
Puis je vous l'ai lu un peu d'entrée de jeu avec un texto que Christiane nous a envoyé. Tout ce qui entoure le dopage. Premièrement, là, on est rendu où dans le Tour de France, Antonine?
16e étape demain, donc un contre-la-montre. Demandez-moi pas de vous l'expliquer, s'il vous plaît, c'est quoi un contre-la-montre, mais c'est une étape individuelle. Les joueurs partent un après l'autre et ils sont en fait en compétition contre eux-mêmes. Mais ce qui retient l'attention en fin de semaine, c'est qu'il y a eu un petit test surprise antidopage. On est tous d'accord à ce qu'il y ait des tests antidopage,
ben oui.
surtout avec tous les scandales qui ont secoué le Tour de France à une certaine époque. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que ben ils se font réveiller en plein milieu de la nuit. Tu sais, c'est quand même quelque chose d'assez exigeant faire le Tour de France là, physiquement.
T'as besoin de ta nuit de
imaginer.
Sommeil.
Oui, t'as besoin de ta nuit de sommeil. Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont été réveillés en plein milieu de la nuit de samedi à dimanche, mais pas exactement à la même heure. Ok, donc le Danois Vingegaard a été réveillé à 2h du matin. Et le Slovène, Tadej Pogacar, a été réveillé à 5h du matin. Moi, je ne sais pas pour vous, mais si tu me réveilles à 2h du matin versus à 5h du matin, c'est pas la même chose. Si tu me réveilles à 5h du matin, je peux faire ma journée. Je vais me lever. Je vais pas me rendormir probablement, mais je vais me lever. Puis 5h du matin, je dors pas profondément.
Mais c'est ça, 2h, t'es dans un cycle lointain, là.
Et là, ce qui vient un peu ajouter au questionnement sur ces heures-là, c'est que Vingegaard s'est cassé la gueule le lendemain. Donc, il fait son étape du Tour de France, tombe dans un rond-point et se pète la clavicule.
Là, ça t'amène à te dire s'il avait dormi sa nuit comme du monde puis il n'avait pas été dérangé en plein milieu de la nuit.
T'sais, on le saura jamais. Mais c'est sûr que les autres coureurs, les journalistes sportifs, tout le monde a dit, là, c'est parce que c'est sûr que quand tu te fais réveiller pendant ton sommeil profond, ça t'affecte. Puis, tu sais, ces joueurs-là, ils surveillent tout ce qu'ils mangent. Ils ont un entraînement vraiment... intense. Et chaque,
hygiène de vie parfaite.
Chaque
là.
Calorie dépensée, dans, t'sais, tout compte dans ce genre de course-là. Donc, te faire réveiller à 2h, c'est sûr que ça doit avoir
mais
un
ça
impact.
Vient d'où, ça? Pourquoi en plein milieu de la nuit?
C'est que, ben, premièrement, ça réduit les chances de tricher, entre guillemets, c'est-à-dire, par exemple, d'essayer de noyer des résultats de drogue avec beaucoup de liquide. Le pipi du matin, que ce soit pour un test de grossesse ou un test de,
c'est plus concentré.
De drogue, c'est plus concentré. Le 2 heures du matin...
Non, c'est ça. C'est-tu vraiment nécessaire? Pour les dérangements que ça amène, est-ce que c'est à ce point-là nécessaire? Ça ferait quoi de le faire à 5 heures aussi?
Ben, en fait, pire que ça, moi, je trouve qu'il y a une inéquité complète à ce que ce soit pas tous à la même heure.
Ben oui.
Puis là, on parle des deux favoris du Tour de France qui sont testés la même nuit. Faites-le à la même heure.
Mm-hmm.
Tu sais, je veux dire, il y a vraiment quelque chose d'injuste. Puis même Tadej Pogacar...
Y a-t-il un petit complot là-dedans?
Non, je pense pas. Puis Pogacar a dénoncé la situation. Parce que lui, c'est le gagnant des dernières années. C'est le favori. Il est très fort. Jonas Vingegaard, c'est son adversaire principal. Il a gagné les Tours de France en 2022 et 2023. Pogacar est très, très, très compétitif. mais il veut pas gagner parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait réveiller à 2 heures du matin. Fait qu'il était un peu fâché. Puis il a déclaré, je trouvais que c'est très sport sa manière de le faire, mais il dit le Tour de France sera pas le même sans lui. On est des grands rivaux avec beaucoup de respect, des amis en quelque sorte. Donc, bref, il veut gagner, mais il veut gagner en battant
c'est
son
ça, que
adversaire.
Ce soit fair, que exact. Ce soit, ben oui, je comprends tellement.
Il veut pas l'Astérix à côté qui dit, OK, ben il a gagné cette année-là, mais
peut-être qu'il n'aurait pas gagné
c'est
si
ça.
L'autre n'avait pas eu un test
puis
à
on
2 heures du matin.
On ne le saura jamais, fait que la victoire a peut-être moins de valeur.
Puis j'admire ça d'une certaine façon. Ouais. Mais y a-t-il encore beaucoup d'histoires et de problèmes dans les dernières années au niveau du dopage?
Beaucoup moins, là. Disons qu'avec ce qui a secoué avec Armstrong il y a quelques années, ça a beaucoup changé la manière dont le sport est géré maintenant, mais c'est toujours un peu difficile à dire parce que, évidemment, les tests, il peut y avoir des manières de dopage qu'on connaît pas encore. Donc, des fois, on le sait un peu à rebours quand il y a eu des problématiques, mais c'est plus du tout comme c'était.
Même
là,
que des fois,
années,
c'est pas nécessairement, ben, j'allais dire, fiable, mais moi, je me souviens d'une histoire parallèlement. Je vous ramène ici là, d'une kayakiste, là, Laurence Vincent Lapointe. Peut-être que le nom vous dit quelque chose. Elle a été blanchie en 2020, là, mais en 2019, elle avait été carrément suspendue suite à un contrôle positif. Puis ils se sont rendus compte que la contamination avait été faite par les fluides corporels, dont le sperme, là, de son ex-conjoint. Tu sais. Bon. Fait que ça avait comme un peu suspendu sa pratique, sa participation.
Ouais, c'est des années que tu ne reverras plus jamais.
Ben non,
la
c'est
suite.
Ça. C'est
puis,
ça.
Puis en général, c'est tout le temps controversé aussi parce que souvent, il va y en avoir qui vont sortir des excuses puis tu te dis ben oui.
C'est
mais
ça.
Des fois, tu te rends compte puis parfois, tu le sais, des années après que hey, finalement, ben c'était vraiment lui, il était pas au courant pantoute, puis c'est ouais. tel produit qu'il prenait pour telle affaire, que... puis d'un autre côté, tu te dis ouais, mais c'est sa job, puis il a son équipe d'être au courant.
Exact.
Mais des fois, il y a certains cas où j'ai comme une petite pitié de me dire OK, lui, ça a vraiment scrappé sa vie de prendre tel produit pour sa perte de cheveux. Puis que finalement, ouais. dans ce produit-là,
c'est
il y avait...
Considéré
parce que me semble qu'il y en avait eu une histoire à un moment donné que c'était un produit pour perte de cheveux là, qui avait... que c'est considéré dopage alors qu'on s'entend...
C'est... Ça va pas t'aider dans ta performance nécessairement, puis c'est banal. Là,
non,
c'est plus
ça.
Personnel. Comme...
En plus, être chauve quand tu fais certains sports, ça peut te donner plus d'aérodynamie. Mais donc, ne prenez pas de médicaments pour vos cheveux,
ouais,
mesdames et messieurs. Là, c'est avec le départ de Vingegaard, c'est Remco Evenepoel de l'équipe Red Bull qui est un peu comme le deuxième favori. Des bonnes chances de gagner l'étape de demain.
C'était José Théodore. C'était
ouais.
à José Théodore que c'était arrivé une histoire de... Il avait été pris pour dopage, puis il avait dit que c'était à cause d'un médicament pour prévenir la perte de cheveux.
Hey, tu dois-tu te sentir niaiseux, pour vrai, de ne pas avoir vu ça venir?
Il me semble que le monde avait ri de lui.
Mais pourquoi ce produit-là est interdit, c'est pas parce qu'il t'aide avec tes performances,
hormones.
Même pas. C'est que ça peut masquer la prise de stéroïdes.
Oui. Oh,
fait que
ouais.
si tu prends ça, ben ça... Ça te donne rien, mais c'est que ça fait louche parce que ça peut être pour... Mais finalement, je me souviens plus s'il avait été blanchi, là. Mais c'est ça. Fait que lui,
hey,
il disait... Ouais, c'était pour ma
pareil,
perte de
hein?
cheveux.
Pauvre petit. Oh. Déjà que souvent, c'est un complexe personnel que
ben
tu
oui.
veux pas nécessairement mettre de l'avant. Là. Fait que là, aujourd'hui, c'est congé pour les
congé,
coureurs.
Oui, cette journée de repos demain contre la montre 16e étape. Entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains, juste retenir que c'est sur les rives du lac Léman. Ça devrait être très, très beau. Parce que moi, c'est toujours...
paysages.
Les paysages, ben toujours oui. aussi magnifiques. Ça fait du petit slow TV. Puis c'est un petit peu plus stressant que de regarder juste des paysages parce que souvent, il y a des chutes et des accidents. Donc, je vous recommande, si vous avez un peu de temps ou si vous êtes en vacances, de vous mettre ça en background.
On s'en reparle demain. Tiens, on s'en reparle demain. Juste vous dire que si vous étiez sur Robert Bourassa dans le coin de Père-le-Lièvre, il y avait comme plein de sacs de je sais pas quoi qui traînait un peu partout à terre, là. C'est ramassé. Fait que c'est terminé de ce côté-là. Capitale, direction est, il y a un léger ralentissement à prendre en compte à la hauteur de Robert Bourassa. Sinon, c'est la 20 direction ouest dans le coin de Chemin des Îles et dans le coin de Taniata. On revient dans quelques instants. On a Louis Bélavance qui va se tirer une bûche avec nous. Louis Bélavance, il faut commencer à connaître le nom. C'est le directeur de la programmation de Bleu Feu et donc du Festival Phono qui s'en vient en septembre. Petit frère du Festival d'été de Québec, évidemment, du FEC aussi. Fait qu'on va avoir l'occasion de jaser plein d'affaires. Si vous avez des questions, 971-1021. En fait, si vous avez des questions cocasses, j'ai envie de vous dire. J'ai une amie avec qui je suis allée voir un des spectacles. Puis c'est une réflexion que je m'étais faite il y a quelques années. Tu sais, il y a toujours avant le show principal, vers comme 9h15, le karaoké.
Oui.
Où là, tu peux aller voter entre une couple de tunes. On choisit la chanson, on la met, mais maudit, il y a la coupe. Ouais. Et elle est venue, je pense que c'était le soir de Gwen Stefani. C'était une tune de Céline Dion. Et là, tu comprends que les plaines s'enflamment dans ce temps-là. Là, tout le monde la connaît. Puis la tune a coupé juste avant le bout. Le bout
ben
où tu t'emportes, là, tu comprends? Et ça fait des jours qu'elle m'écrit « Là, mais tu parles à Louis, tu lui demandes. Hein? Pourquoi il coupe? C'est quoi cette affaire-là? »
Qui décide où la toune est coupée?
C'est qui
on
qui
veut
décide
le savoir.
Ça?
On veut y parler.
D'avance? Ça marche pas partout. Fait que on va parler de bref, pas juste de la programmation, mais de ces choses cocasses-là. Y a-t-il des affaires qui vous dérangent? Avez-vous des questions, recommandations, ce que vous voulez? Louis Bellavance s'en vient. Le retour de